On est au 14, c'est ça? Vayavou ad Nachal Eshkol. Ils sont arrivés jusqu'à Nachal Eshkol, c'est-à-dire à la vallée d'Eshkol. Alors, dans le Passouk, il est dit que Vaïchretou Misham Zmora, ils ont coupé là-bas une branche, Veshkol Anavim, et une grappe de raisin, disons, Echad, Vaïsaou Vamot, Mishnaim. Et ils l'ont porté avec, avec des barres, à deux, quoi. C'est tellement lourd que ils ont dû se mettre à deux pour le porter. Oumina rimonim, oumina teni. Et ils ont pris aussi des grenades et des figues. Donc le verset dit qu'ils ont pris, ils ont coupé et ils ont pris. Alors le Midrash, lui, dit L'oratsu litol mi perot eretz Israël. En fait, ils ne voulaient pas prendre des fruits d'Eretz Israël. Sauf que il oulait Kalev, chez Shalafet, à Zayin, va yarotz livnehem, va marlehem, im en atem notlim, o atem morgimoti, o ani oreg etchem. Il ne voulait pas prendre des fruits. Bonsoir. Et Kalev, il a sorti son épée, il a couru au devant d'eux, il leur a dit, si vous n'en prenez pas, alors ce sera vous ou moi, quoi. C'est-à-dire, ou vous me tuez, ou moi je vous tue. L'Oayou Notlim. Il ne prenait pas. Le Fichar, pour cette raison, le verset, le Midrash cite ici le verset, Imlo ha'aretz asher darcha raglecha ba lecha tiye. Si ce n'était que vos pieds ont foulé cette terre, est-ce qu'elle serait, est-ce que vous l'auriez en héritage? C'est-à-dire, vous ne l'auriez pas eu. Donc, Vaïseu Bamot Mishnaim, En Pachot Mishnemotot. Il n'y avait pas moins de deux barres. Il fallait deux barres pour tenir tout ça. Le fiché Enomer Bamot Mishnaim est là. C'est parce que ce n'est pas marqué Bamot Shnaim que sur une barre, ils étaient à deux, mais Bishnaim, c'est-à-dire à deux motes, deux barres. Donc ils étaient quatre en fait. Ou alors un, chacun avait deux barres sur ses épaules. Un sur l'épaule gauche, un sur l'épaule droite. Veillez Shomrim Shlosha. Certains disent qu'il y avait trois barres. Bamot Echad, Bishnaim Are Shlosha. Et Bishnaim, il y en avait deux autres. Un plus deux, ça fait trois. Vekama ya masui shel kol echad vechad. Combien pesait chacune? Eznemar ba'avanim shenatlu min ha'yarden. Il est dit au sujet des pierres qu'ils ont pris dans le Jourdain, quand ils ont passé le Jourdain. Ve'et shtem esre ha'avanim ha'ele asher lakru min ha'yarden ekim ba'gilgal. Ces 12 pierres, Yoshua les a dressées à Gilgal. Kama shiuro shel kol achat ve'achat, masui arba'im se'a. C'est une charge de 40 CA. Et Kanata Mechashev, le auto-échecol. Maintenant, tu peux calculer combien pesait cette grappe de raisin. Ils se sont mis à 2 ou à 3 barres pour pouvoir porter cette grappe de raisin. Adam Nosse Masui Leatzmo, Makbi Asea. On va t'expliquer comment on va arriver à calculer. Quelqu'un qui est tout seul, il est capable de porter un CA. Le volume d'un CA. Magbia alav chavero, si quelqu'un le charge, il n'a pas besoin de le monter lui-même sur son épaule, sur son dos, nosse sataim, il peut porter deux. Vim magbia sataim, nosse im chavero, si celui qui est tout seul peut lever deux, alors quand ils sont à deux, alors nosse shalosh, et vemikan mechashev. Avec ça, tu peux calculer. En fait, quand on dit de combien était la charge le Midrash, il demande combien il pouvait porter. On amène la preuve des pierres du Jourdain. Et sur ces pierres du Jourdain, donc on dit que chacune de ces pierres pesait 40 CA. Alors c'est un peu compliqué parce que 40 CA c'est un volume. CA c'est un volume, c'est pas un poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on veut dire par là que c'était le poids de 40 CA d'eau? 40 CA, c'est un mikvé. C'est la grandeur d'un mikvé minimum. Le minimum d'un mikvé, c'est 40 CA. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Un mikvé, c'est 1 par 1 par 3. C'est-à-dire, si on prend 45 cm pour une amma, si on prend 50, ça fait 50-50 par 1m50. Ça fait 0,25 fois 1,5. Ça fait 375, c'est ça? Oui. Ça fait 365 kilos, disons, d'eau. 365... 0,365 mètres cubes, donc c'est 365 kilos d'eau. Donc disons qu'on ne tienne pas compte de la densité des pierres et que quand on dit CA, on veut dire un CA d'eau. Quel poids? Parce que si c'était le volume d'un mikvé de pierres, je ne sais pas quelle est la densité des pierres standards. Oh non? Oui, parce qu'en général, les pierres, elles sont au fond de l'eau. D'accord? Si elles étaient... Si la densité était plus petite que 1, elle pourrait servir de bouée, mais en général, les pierres servent mal de bouée. J'en sais rien, c'est des rochers. Ouais.
C'est pas des pierres volcaniques, c'est pas des pierres fausses.
Sur lesquels on a écrit. Même si c'est une pierre qui a une... Je veux dire, même si la densité était à peu près 1 ou un peu moins ou un peu plus, peu importe, ça fait 365. Une pierre de 365, c'est pas mal quand même. Bon. Ils avaient chaque pierre, chaque pierre du Jourdain était... C'était des rochers énormes. C'est... Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est important ici, le calcul de volume de ces fruits absolument monstrueux? C'est en soi même assez...
On n'arrive pas à avoir la connexion d'Internet. Est-ce que tu peux appeler...
Non, je ne peux plus. Sur moi, je ne peux pas. Je suis déjà dessus. J'ai déjà quelqu'un sur moi. Quelqu'un.
Sur le téléphone là-bas, est-ce
qu'il peut... Quel téléphone?
Non, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas.
D'accord.
Donc, moi je veux bien que tu restes sur mon portable, ça ne me dérange pas, mais... Ben, écoute, je ne sais pas s'ils sont pas si bien. Je te laisse sur mon portable, mais tu as un forfait, c'est ça? D'accord, ok. Bon, alors, il n'y a pas de problème, je te laisse sur mon... Ok, je te laisse sur mon portable.
Donc, ce qui est visiblement important là, dans cette affaire, c'est ce refus qu'ils avaient de prendre des fruits, quoi. Et il a fallu que Caleb leur dise...
C'est Caleb,
justement. Et c'est Caleb qui est intervenu de cette manière-là. C'est intéressant parce que il savait donc que Caleb voulait la vérité. Comment se fait-il qu'il les laissait parler? Quand il parle et qu'il a la possibilité de les contredire, pourquoi on l'a laissé parler? C'est-à-dire comme si on pouvait penser qu'il était des leurs. Mais si à ce moment-là il leur a dit ou vous prenez ça ou alors vous me tuez ou je vous tue. Il avait donc annoncé la couleur.
C'est pas forcément une position, là. C'est pas forcément une position qu'elle prend.
En tout cas, il n'est pas d'accord avec eux, puisque eux ne veulent pas prendre. Et pourquoi ils ne veulent pas prendre? Parce que c'était lourd. Ils ne veulent pas prendre parce qu'ils ne veulent pas. C'est trop beau. Et dans leur idée, ils ne veulent pas ramener quelque chose, des fruits qui sont tellement magnifiques. Ils ne veulent pas les amener. Alors Caleb leur dit... C'est à la vie ou à la mort, quoi. Caleb risque ça. Il se bat pour ça. Il se bat comme si votre nefesh, je veux dire. A priori, quand il dit « vous me tuez ou je vous tue », ils sont 10 contre 1. Hein. S'il leur déclare la guerre, c'est à 10 contre 1. 1 contre 10, plutôt. Mais c'est intéressant parce que finalement, ils ont pris. Ils ne voulaient pas, mais ils ont pris. Ce qui est intéressant, c'est que le Midrash ne dit pas qu'ils se sont pliés devant Caleb. Imen atem notlim, o atem orgimoti, o ani oregotrem. Lo ayu notlim. Ils ne voulaient pas prendre. Alors, il ne faut pas le lire comme ça. Il faut lire que lo ayu notlim. S'ils n'avaient pas pris, en fait, s'ils n'avaient pas été de prendre, finalement, s'ils ne s'étaient pas pliés en quelque sorte à ça. À sa décision. Alors le Passouk dit si c'est pas cette terre, vous, si vous n'aviez pas parcouru cette terre vraiment en espion, etc., jamais vous l'auriez eu. Vous ne l'aurez pas donné, cette terre. Alors, Yoshua, il dit ce passouk, d'accord, que c'est sûr que cette pierre, cette terre sur laquelle que vous avez foulée, en fait, vous allez l'avoir en héritage. Sous-entendu, c'est pas parce qu'il le refuse, c'est une façon de dire, mais vous n'aurez pas cette terre si vous ne foulez pas la terre, c'est-à-dire si vous ne jouez pas le jeu des explorateurs.
Déjà fait que c'était pas
c'est pour ça,
nous,
probablement,
ça
ouais.
Risquait de contredire
c'est trop beau,
la
ouais.
Thèse qu'il se forgeait.
Mm-hmm. Mais si on dit ça, pourquoi ce que l'UNRWA nous présente la grosseur des prix, le poids, tout ça, on a l'impression que on ferait le lien plutôt en disant que ce qu'ils ont créé, c'est le poids, c'est le volume, c'est la chose, la fatigue.
Le Etz Yosef, là, sur place, vous avez vu, il dit comme ça, quelque chose d'étrange, il dit, dans la Gemara, on dit que Yoshua et Caleb, ils n'ont rien porté, ils ne portaient pas de fruits. On demande pourquoi ils ne portaient pas, Iba etema mishum de chshive, ou bien parce qu'ils étaient plus importants que les autres, et donc par kavod, ils ne portaient pas. Pas leur cavote de portée. Vibaitema, chez l'Ayubota et ça. Ou alors, c'est qu'ils n'étaient pas dans le complot. Et Rashi explique, chez l'Ayubota et ça, ça veut dire, la vie eshkol meshune kazé, ils n'étaient pas dans le coup de cette idée d'amener une grappe tellement extraordinaire, mais c'est impressionnant, mais pas obligatoirement positivement. Shamraglim, les Rahan et Kavnu, l'Omar, Kishem, Sheperotem, Meshunim, eux, ils voulaient le mal, ils voulaient dire de même que les fruits sont complètement monstrueux, eux aussi sont monstrueux, les habitants. Vefchar, Shem, Agmara, Vamidrash, Lopligé, alors il dit, mais on a l'impression que c'est le contraire ici, on a l'impression. Le Kalev, il a. Alors peut-être on n'est pas obligé de dire qu'il y a une machloquette. Chez Mitrila, alors Atsu Amraglim, Klal Litol. Qu'au début, il ne voulait absolument pas prendre. Kidechelo Hirou, Shvacho, Shel, Eretz Israël, pour qu'on ne voit pas la beauté d'Eretz Israël. Et Kivan, chez Uchrechou Litol, allié des Kalev, et quand Kalev les a obligés à prendre, Anatlu, Yoter Gdolim, Moshunim, avec ça, on comprend un peu pourquoi le Midrash y rapporte ensuite le caractère complètement monstrueux de ces fruits. C'est probablement qu'il y avait des très beaux fruits normaux, et puis il y avait quelques fruits monstrueux. Et quand il ne voulait pas couper, il ne voulait pas amener les fruits qui n'auraient dit que la beauté d'Eretz Israël. Alors il leur a dit, dans ce cas-là, il faudra me tuer ou bien je vous tuerai. Alors du coup, ils se sont dit, ah bon, si on est obligé, quand on... ils ne voulaient pas, et on ne nous dit rien dans le Midrash, enfin, on dit, tout à coup, ils sont en train de porter. Alors l'idée, c'est, oui, ils ont compris que Caleb les a obligés à prendre, alors ils ont pris des fruits aussi monstrueux que possible. ce moment-là, Caleb et Joshua ne voulaient pas porter parce qu'ils ne voulaient pas être partis de cette machination qui avait pour but d'amener des fruits complètement fous. Et alors, ce pshat, il est dans l'idée pas mal, mais dans le texte, c'est un peu difficile. Parce que c'est marqué que quand ils sont arrivés, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous avais envoyé. C'est un pays très très super, et voilà ses fruits. Et seulement après, il dit Efes ki azab, mais ça ne sert à rien. Alors, si les fruits qu'il présente ont pour but d'effrayer les gens, alors ils n'ont pas. C'est déjà. Quand il les présente, il les présente négativement. Donc quand il dit Vezepiria, c'est encore une partie positive. C'est seulement après qu'il dit mais Ephes, mais tout ça c'est rien parce qu'on ne pourra quand même pas avoir ce pays parce que les gens là-bas sont beaucoup plus forts que nous. D'accord? Oui, le pays est extraordinaire. Tova, Aretz, Meod, Meod. Effectivement, c'est Zavatrala Vodvash, comme tu l'as dit. Et voilà les fruits. Donc on a l'impression que les fruits, ils sont dans la suite du Zavatrala Vodvash, c'est-à-dire du positif. Donc le pshat ici, pour essayer, il est joli, mais il ne va pas très bien dans le verset.
Mais est-ce qu'on n'a pas aussi la même idée qu'on avait avec la ville de Hebron, quand il disait c'est très bien, c'est une ville super, mais nous on ne sait pas faire, c'est... Là aussi, bon, ben, y a des fruits extraordinaires, mais ça demandera beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et nous on ne sait pas faire ça. Faire un schwar, mais avec une ambiguïté telle que ça casse tout.
Ah non ?
Comment ils ont pu garder les fruits pendant 40 jours sans qu'il y ait des mouchons ?
Peut-être qu'ils les ont pris en partant. Ils sont pris en partant, peut-être seulement.
Oui, mais il faut combien de temps pour retourner les montrer aux autres sans qu'ils soient.
Ils n'étaient pas tellement loin. Bon, ces fruits si extraordinaires que ça, ils pouvaient aussi tenir. On n'a jamais vu par la suite des fruits pareils. Oui. C'est des fruits conservateurs pour des explorateurs révolutionnaires. La troisième explication. Ça ne va pas très bien parce que ici, si vous lisez le texte, si vous regardez le texte, quand ils arrivent, ils disent à Moshe Rabbeinu, on a exploré le territoire, ça c'est le verset 10. Et ils ont leur ont montré les fruits. Et ça, c'est après. Et alors, ensuite, ils racontent. Ils disent voilà, on est arrivé dans ce pays que tu nous as envoyé. Vegam zavatrala budvashi. Et ce pays est effectivement un pays où coule le lait et le miel, comme tu nous l'avais présenté, dit, c'est un très très beau pays, très très bien. Vezépiria, et voici ses fruits. Donc, quand il présente les fruits, ils sont encore dans un discours élogieux sur la terre. D'accord ? Puisqu'il dit, voilà, le pays est Zavatrala Boudvash. Oui, mais bon, c'est ça, mais seulement quand ils disent les Epiria, on n'est pas encore. Si les Epiria, c'est déjà, et les fruits sont monstrueux, alors ils n'ont pas besoin de dire Ephes, Kias, mais c'est nul parce que le peuple là-bas est trop fort. Ephes. Si on a déjà dit quelque chose de négatif, on n'a plus besoin de dire Ephes. Ephes, ils auraient dû le dire avant. Oui, c'est Beret Zavatra la Boudvache. Mais Ephes, parce que regardez ces fruits qui sont monstrueux, et le peuple est aussi monstrueux, etc. Alors ici, on présente les fruits comme s'ils étaient positifs. C'est le pshat. Et puis après, alors ici, dans l'exemple, enfin dans la lecture qu'il voudrait donner pour supprimer la marloquette entre la Gemara et le Midrash, il dit qu'au début, il voulait pas du tout prendre de fruits, parce qu'il était trop beau. Et après, quand Caleb les a obligés à prendre, alors ils ont cherché des fruits monstrueux. Mais s'ils ont cherché des fruits qui étaient monstrueux pour effrayer le peuple, alors quand ils ont dit Zépiria que c'était des fruits monstrueux, ils sont déjà dans la révolte, quoi. Ils sont déjà en train de dire au peuple, non, mais Zépiria, c'est le... Les mots vont pas bien avec Zavatra la Boudvache, Vezépiria, on a l'impression qu'on est dans le positif. On n'est pas dans le négatif ici.
Et est-ce que. Moi, il me plaît bien ce chat, parce que ici, même si effectivement ça ne va pas lui donner dans le positif, quand même, à la fois le Midrash et la Paracha donnent des détails.
Je suis là tout à fait d'accord. Le pshat, si on ne regarde pas le pshat, si on regarde pas le texte, ça va très bien. Mais si vous regardez le texte, ça ne va pas. Mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est bien ce qu'ils veulent. C'est bien ce qu'ils veulent d'après. C'est d'après ce pshat, c'est ce qu'ils veulent. Mais dans le texte, on ne voit pas que sur les fruits, ce soit négatif. Sur les fruits, ce n'est pas négatif. Sur les fruits, c'est. Les Zépiria, c'est la suite de Zébatra la bout de vache.
Oui, c'est comme ça, mais directement après, c'est le fruit.
Mais justement après. Après.
C'est juste après. Parce que
peut-être
le fruit.
Regardez
le fruit.
Non, mais. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Pardon ? Sur le caractère monstrueux des fruits, sur la quantité, enfin, c'est quand on dit ici ces fruits tels qu'ils sont décrits, on voit très bien que c'est une anormalité. C'est des fruits, c'est pas fait pour peser Ouais, t'es comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec des fruits pareils?
Parce que lorsque Kenneth vous prend les fruits, il peut les ramener. Lui, c'est dans le positif qu'il...
Oui, tout à fait. Mais le Midrash dit, le Midrash, lui, il ne nous dit pas explicitement qu'ils se sont ralliés à Kalev. Parce que la dernière chose qu'on dit, Lo ayunotlim, il ne voulait pas prendre. Ils sont magnifiques. On peut les présenter comme magnifiques. On peut présenter ça comme, regarde-moi cette terre extraordinaire, capable de produire des fruits aussi magnifiques. Mais la grosseur, c'est pas toujours la beauté non plus. L'Agma, elle rapporte que l'Agma dans Souka, quand elle discute le volume d'un Etrog, il raconte que Rabbi Akiva, il est venu au Beit HaMidrash, il avait un étrog comme ça sur les épaules. Un machin. Ils ont dit, ça ne s'appelle pas Hadar. C'est pas beau. Bon, c'est extraordinaire, c'est un monstrueux, c'est un monstre, mais c'est pas beau. Donc, c'est vrai que des fruits comme ceux-là, on peut dire, ils peuvent dire, Zepiria, regardez la puissance de cette terre qui est capable de produire tout ça. Zavat Khalav Udvash, parce que Rashi il explique, je crois, sur cette fois-ci que coule le lait et le miel, il dit, non là il dit qu'il faut au moins dire un peu de Emmet, s'il n'y a pas de Sheker, s'il n'y a que du Sheker ça ne va pas tenir, mais il y a des Mefarshim qui expliquent que Zavat Khalav Udvash c'est pas simplement une métaphore. Mais ça coulait vraiment tout seul, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup. Je crois que c'est Ramban ou Ibn Ezra qui dit on n'aura pas beaucoup à travailler. D'accord, ça coule tout seul. Bon, c'est vrai qu'on va devenir agriculteur, etc. Mais les fruits, quasiment, ce sera tellement abondant qu'il faudra juste placer les seaux, quoi. Mais c'est tout. On n'aura pas beaucoup de travail. Donc, on peut regarder ça de cette. Positivement, c'est, oui, c'est extraordinaire. Alors, la suite, et voilà les fruits. Donc, c'est un pays qui va nous aider, c'est-à-dire qu'il produit, à lui tout seul, il produit des choses extraordinaires, sans qu'on n'aura qu'à se baisser pour ramasser. Mais d'un autre côté, effectivement, quand les choses sont très grandes, elles ont un côté monstrueux, et ce côté monstrueux, peut être interprété très négativement. Et c'est ça le génie de ces... Enfin, le génie des meraglim, c'est-à-dire ils ne veulent pas apporter parce que c'est trop beau. Ah, on est obligé d'apporter, alors on va quand même réussir à tirer notre épingle du jeu, on va présenter les choses comme nous on veut, on va prendre du monstrueux. Et il faut dire, ils ont du monstrueux à prendre, ils peuvent prendre, ils ne l'ont pas fabriqué. Il existait. Donc, il y avait le choix, semble-t-il. D'après le Hetz Yosef, d'après ce pshat, on avait le choix. Ou bien on prend les très beaux fruits, mais dans des dimensions acceptables, classiques, ou alors on prend des fruits monstrueux. Alors, les fruits comme ça, très tellement extraordinaires, on peut les présenter encore une fois comme un témoignage de la vitalité de la terre. C'est que cette terre, c'est une terre extraordinaire. Et puis on peut le dire, mais non, mais c'est mechouné, c'est anormal. C'est un pays on est dans l'anormalité, et les gens sont anormaux, les gens sont des géants, etc. Tout est géant, etc. là-dedans. Et nous, on n'a pas de place, c'est pas un monde. En réalité, dire d'Eretz Israël que c'est un pays de géants, etc., mais en fait, ce que. Eretz Israël doit devenir un pays de géants, pas de géants physiques, de géants spirituels. Donc eux, ce qu'ils disent ici, c'est un pays de géants, mais c'est purement physique. C'est physique et d'une certaine manière, du coup, on n'y a aucun mérite. C'est pas ce gigantisme-là, il n'est pas la résultante d'un travail. Donc, tout ce qui est de l'ordre de, on a déjà dit souvent, tout ce qui est de l'ordre de l'inné, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui est important, c'est l'acquis, c'est ce qu'on a acquis par son travail. Et dans le spirituel, ça sera comme ça. ce sera la résultante d'acquisition. Donc je crois que c'est justement cette idée que, oui, le pays est extraordinaire, mais ils ont dit, c'est extraordinaire, quoi, ou du côté, du mauvais côté. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Tu veux nous... Le pays, normalement, il ne doit pas être extraordinaire par lui-même. Il doit être un pays qui doit favoriser l'existence de géants spirituels. Mais le gigantisme, il ne doit pas être une fin en soi. Là, c'est une fin en soi. Donc, ça n'a pas la dimension qu'on voudrait que cela ait. Alors qu'on a montré au Bnei Israël, à un Eretz Israël qui était gigantesque, qui était, sans les limites de la Chochma, sans les limites de qu'il faut savoir mettre à tout. Non, s'il n'y a pas de... C'est important. Un des noms d'Hachem, c'est Shakai, Shamar Leolamodai. Ça suffit. Il y a un moment où il faut dire, ça suffit. Un moment où il faut limiter les choses. Quand les choses deviennent infiniment grandes, ou quand elles dépassent les limites, alors ça devient, c'est le mauvais, c'est l'excès de... y compris l'excès du bien. C'est l'excès du chesed d'Avraham Avinu qui donne Ishmael, l'excès de la Gvoura. C'est très bien la Gvoura. Mais quand c'est excessif, ça donne Esav. Donc il faut garder la mesure. On voit très bien que c'est tout à fait d'actualité. L'accusation qui est faite aujourd'hui à Israël d'avoir exagéré, quoi. C'est disproportionné. Ah oui, c'est totalement disproportionné. Ils amènent du disproportionné, c'est insupportable, le disproportionné.
Pourquoi Caleb insiste selon le Midrash?
Caleb, il veut absolument qu'ils amènent des fruits.
Pourquoi?
Mais des beaux fruits. Parce qu'ils étaient là pour ça. Parce que eux, pourquoi ils ne voulaient pas amener les fruits? Parce qu'ils m'ont dit, s'ils reviennent sans rien, ça veut dire que, bon, il n'y a rien, il n'y avait rien à amener de ce pays. C'est un pays de... on n'a rien à tirer. Il fallait montrer la beauté du pays. Les fruits sont magnifiques. Caleb voulait qu'on en amène.
Mais dès le départ, ils sont partis avec l'objectif de récupérer...
Je ne sais pas si dès le départ, c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, là où ils arrivent, là, quand ils sont à Nahal Eshkol, en tout cas, c'est comme ça. Ils sont à cet endroit-là, ils sont déjà arrivés à un degré de complot. Comme on dit, ils n'étaient pas dans la Hetza en question. C'est surprenant, on ne s'attend pas à ça, parce que quand vous lisez le texte, j'ai l'impression que Caleb, c'est vrai qu'il y a une dracha qu'il est allé prier sur la tombe des Avot, etc. Mais on n'a pas l'impression qu'eux s'en soient jamais aperçus, les autres. Mais ils ont bien des apercevants ici, il leur a dit. Et là, on voit Ils n'étaient pas dans la Hetza, ça veut dire que finalement, ils l'ont vu arriver. Et au lieu d'affronter Caleb et dire tu peux dire ce que tu veux, puis s'il faut, on te tuera. Bon, on est 10 contre 1. Tu as dit c'est ou je vous tue ou vous me tuez. Bon, on va te tuer. Bon, ils peuvent lui refaire le coup des frères de Yosef. Hein. On est reparti. Ouais, ce shalom, je veux dire, c'est Caleb qui soulève le problème. Et cette fois, eux, ils ne l'ont pas fait. Mais ils l'ont dit, ah ben, ok, ouais, d'accord, on va amener. Puis entre eux, ils se sont dit, on va amener, qu'est-ce qu'on va amener? On va amener quelque chose qui va quand même servir notre théorie, et pas Caleb. Il ne pourra pas dire, on ne veut pas amener, puisqu'on amène. Et peut-être qu'on va le présenter au départ, peut-être pour aller dans le sens de ce que vous disiez, peut-être... Ils le présentent comme si c'était, comme si eux croyaient que c'est positif, ces fruits. Et une fois qu'ils auront dit les gens sont des géants, etc., ils disent, ah ben oui, mais les fruits aussi. D'accord ? Donc c'est anormal.
Et au-delà, on peut aussi s'interroger sur justement la présence de ce type de fruits en Eretz Israël.
ça veut dire que ici Hachem a permis aux meraglim d'avoir des arguments. Bon, s'il n'y avait pas ces fruits-là, ils n'auraient pas pu. Quand Caleb leur dit c'est à la vie ou à la mort, vous amenez ces fruits. Et s'il n'y avait que des beaux fruits et pas des fruits monstrueux, ben, de deux choses l'une. Ou bien il refaisait le coup de Yosef, enfin des frères de Yosef, mais cette fois-ci en le tuant vraiment. Ou alors, ils étaient obligés de se plier et ils auraient apporté à leur corps défendant des fruits qui n'auraient pu s'interpréter que positivement par rapport à Israël. Ils n'auraient pas pu apporter les fruits en disant ça aurait été incroyable. Non, tu vois que les fruits sont normaux, il n'y a que les gens qui ne sont pas normaux. Ah non, mais là, justement, ils n'auraient pas chargé parce qu'ils n'étaient pas de Otaï de ça. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Caleb et Joshua, ils ont compris ce que les. C'est intéressant, ils ont compris ce que faisaient les explorateurs, mais ils sont coincés là. C'est les Chachamim, les explorateurs. Parce qu'eux, ils vont dire mais tu vois bien, au contraire, on a mis des fruits pour montrer la perfection d'Eretz Israël, la puissance d'Eretz Israël. Va dire quelque chose contre ça.
Mais supposons que ce soit eux qui les chargent. Dans ce cas, c'est eux qui choisissent les fruits qui vont porter sur la plateforme.
Tu vois bien que c'est pas comme ça. Tu vois bien que Caleb, il a voulu qu'ils amènent des fruits, et eux, ils ont dit non.
Oui, mais après, le Midrash, il nous explique.
Et le Midrash ne nous dit pas qu'ils aient dit oui.
Et il dit pas ça, mais il dit pas non plus si c'est
si, Caleb. Il dit ils ont pas voulu. Donc les fruits de Caleb, ils ont pas voulu les amener, ils ont toujours pas amené. Ah, ils ont des fruits, ça c'est autre chose.
Mais le Midrash, il est ambigu de toute façon.
Oui, justement. Ils ont joué sur l'ambiguïté parce que, du coup, Caleb et Joshua ne pouvaient pas leur faire des reproches. Vous n'amenez pas les fruits. Oui, on les amène, regarde. Et ah, vous avez pris des fruits monstrueux. On vient montrer la puissance d'Eretz Israël. Il y a un discours positif parce que c'est ambigu, ça marche. S'ils avaient amené des fruits qui étaient moches, le coup d'âme, d'après tout le monde, il n'y avait plus d'ambiguïté, ils n'auraient pas pu défendre leur position.
Je ne suis pas d'accord avec cette sorte de côté, parce que les fruits, ils sont ni beaux ni moches, ils sont gros, et ça veut dire beaucoup à manger, c'est tout.
Non, c'est justement pas beaucoup à manger. Quand ils sont mechounés, ça veut dire c'est des fruits qui sont anormaux. De même que les gens sont anormaux, tout le pays est anormal.
Si aujourd'hui on savait fabriquer ce genre de fruits, on serait content d'aller là.
Peut-être ça aurait une valeur nutritive, mais ça ne sera jamais beau.
On s'en fout que ce soit beau.
Ça ne sera pas beau. Ça sera. On va les exposer comme un truc exceptionnel.
Non, manger.
Premièrement, c'est très souvent ces trucs qui sont beaux ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout. C'est pas toujours très bon.
On voit dans ce Midrash une supériorité de Caleb. Une supériorité de Caleb par rapport aux autres explorateurs.
Supériorité au sens.
Dans le sens où Caleb impose des choses.
Ah oui, c'est ça. Mais lui, il parle au nom de la vérité. Et d'une certaine manière, ils vont pas lui dire ouvertement on veut piéger les Israël. Ah oui, ils sont déjà, il est de ça. C'est déjà et de ça. Ils sont là, il y a une et de ça déjà.
Pourquoi ils
voudraient
piéger les Bénisraëls?
Pardon?
Pourquoi ils voudraient piéger les Bénisraëls?
Qui?
C'est eux-mêmes des Bénisraëls.
Non, mais oui, ils veulent piéger les autres, c'est-à-dire ils veulent que les autres refusent, comme refusent d'aller en Eretz Israël.
Mais dans quel intérêt?
Parce que comme ça, c'est eux qui restent les chefs. Parce qu'en Eretz Israël, ils ne seront pas les chefs. Non, au contraire. On va aller explorer et en fait, quand ils sont allés explorer, ils ne savaient pas qu'ils ne seraient pas les chefs. Mais quand ils ont vu la situation, ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas adéquats. Ils ont compris que ce qui était demandé à des chefs dans ce pays-là, c'est pas du tout la même chose que ce qui est demandé à des chefs dans le désert. Et les compétences qui étaient les leurs, indiscutables dans le désert, ne leur serviraient plus. Enfin, ne serviraient plus. Et certains disent que même Moshe Rabbeinu, c'était la même chose. Il était le leader pour le désert, qu'il n'était pas le leader pour Eretz Israël. C'est une autre anaga, c'est une autre façon de vivre. C'est plus la Torah en direct, la Torah est close. On n'ajoute plus rien à la Torah. On va entrer dans l'application de la Torah. Et dans le développement de la Torah orale, etc. Mais enfin, la Torah elle-même, les paroles d'Hachem par la bouche de Moshe, c'est terminé. Ils ont compris, mais ils ne voulaient pas. Et ça, ils l'ont compris en explorant. Quand ils se sont rendus compte, ils ont joué le rôle d'explorateur. Ils ont très bien vu ce qu'était le pays. Et ils ont vu qu'ils n'avaient pas les Kélim pour être les chefs. Ils ont été choisis par Hachem, donc c'est sûr qu'au départ, ils étaient des tzadikim. Mais quand ils se sont rendus compte que voilà, ça ne marchera plus, ça ne marchera pas, et je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas simplement pour avoir le pouvoir, mais c'est sa proximité que ça, avec Hachem, etc. On a déjà parlé longuement de ça. Bon, c'est ça la situation. Vayoshuvu mitur haaretz miketz arbaim shana. Et ils ont terminé leur exploration au bout de 40 jours. Mais qu'est-ce que ça va être, je crois. Valo atamotse shi'alchu min adarom le tzafon 40 yom. Dis-moi, mais comment tu dis que ça a pris que 40 jours? Rien que d'aller du sud au nord, ça leur a pris 40 jours. Mais 40 yom ayu malchim et kula. Et d'un autre côté, tu dis que ça a pris en tout 40 jours. Et là, chez Galou, il y a l'ifnei kadosh baruch hu shem ba'im ve'omrim lashonara ala haaretz. ונגזר על אותו הדור שנים של צרה, יום לשנה, יום לשנה. וקיפץ הקדוש ברוך הוא לפניהם את הדרך. ישראל קפיצה את הדרך. הקדוש ברוך הוא עשה מיראקל, et à la limite ils ont le temps d'aller du sud au nord, ça prenait 40 jours, et le retour ils l'ont eu gratuit. Le retour ils l'ont eu en un jour. Pourquoi? Parce que comme ils allaient donner du Lashon Hara, dire du Lashon Hara, si leur exploration avait duré 80 jours, les Bnei Israël, ils étaient partis pour 80 ans d'errance. Or la Xéra, elle était déjà, Hachem savait, donc la Xéra, elle était de 40 ans, Yom Lashana, le principe d'un jour pour, enfin un an pour un jour, était semble-t-il déjà acquis, donc Hachem a fait en sorte qu'il n'est pas erré pendant 80 jours. La makom ahu kara nachal eshkol. Cet endroit-là, on l'a appelé nachal eshkol, la vallée d'Eshkol. Eshkol, c'est la grappe. Cet endroit-là, on l'appelle la vallée de la grappe, n'est-ce pas? Alors, comment ça s'appelle? Cet endroit-là, il s'appelle Nachal Eshkol, mais la grappe, elle n'avait pas encore. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore pris la grappe. Azesh Amarakatouv, Magid Mireshit Achrit. Shakol Tsafou, Yaya Lifnea Kadosh Baruch. Parce qu'ici, c'est le principe, c'est un principe qui est basé sur un pasouk dans le Navi Yeshayahu, qui dit que. on annonce ce qui va se faire, on annonce d'emblée ce qui va se faire à la fin. C'est-à-dire, ça s'appelle Nachal Eshkol, à cause de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, tout, à cause de vous, vous savez évidemment clairement ce qui allait se passer. Eshkol, à cause de sa fouille, il y a l'ifné à cause de vous. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que on puisse nommer cet endroit-là Eshkol, vallée d'Eshkol, pour une autre raison. Comment est-ce qu'il a, fait ça? Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'Avraham Avinu avait un copain qui s'appelait Eshkol. Eshkol au Avoshel Avraham Aya. Vinikra Eshkol, alodot à Eshkol, Sheatidim Israël, Lichrot Mimkomo. Et ce bonhomme-là, il s'appelait Eshkol, c'est-à-dire, un nom qui fait déjà, qui parle déjà de cette grappe que les Bnei Israël vont couper dans le futur. Donc les gens ont pensé que c'est la vallée du bonhomme qui s'appelle Eshkol. C'est un bonhomme important. Il y a la vallée de Monsieur Eshkol. Mais en vérité, c'est lui qui s'appelle Eshkol à cause de l'histoire de la grappe. Alors peut-être Monsieur, il s'appelait Monsieur de la grappe pour toute raison, parce que bon, ça existe, j'imagine. Il y a sûrement des gens qui s'appelaient de la grappe. Oui, moi je suis presque sûr que si vous cherchez dans les habitants de France, il y a souvent des gens qui s'appellent de la grappe ou grappe. Grappe, c'est sûr que ça existe. Donc il s'appelle grappe. Et puis s'ils n'existent pas, ils auraient dû exister. Bon. Et donc lui, il ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça parce qu'on a besoin de pouvoir ensuite donner un autre sens. C'est-à-dire qu'on va donner un nouveau sens à partir de l'histoire des explorateurs. On va dire, ah oui, la vallée de la grappe, bien sûr, c'est l'histoire de la grappe des explorateurs. Ah, si tu regardes dans les archives, ça s'appelait déjà Nachal Eshkol avant. En réalité, il s'appelait Eshkol, d'après le verset qu'on a vu. Il s'est appelé Eshkol parce que on aura besoin de ce nom-là dans le futur. En fait. Donc il y a un copain d'Abraham Avinu qui s'appelle comme ça, parce que on aura besoin de nommer cette vallée Nachal Eshkol. En vérité, c'est un peu... Bon, je comprends bien, c'est facile à comprendre, mais on peut se demander pourquoi c'était tellement important que l'endroit s'appelle la vallée de la grappe, même après les histoires des explorateurs. Mais pourquoi il faut qu'il s'appelle comme ça?
En fait, j'ai une question. Pourquoi fait-il une référence?
Pardon?
Pourquoi fait-il qu'il y a un support que le nom, ce nom de Nachal Eshkol est déjà dans le passé? Pourquoi faut-il qu'il s'appuie sur quelque chose de...
Mais parce qu'il ne donnait pas des noms comme ça. Il fallait bien que ça s'appuie sur quelque chose. La vallée de... Non mais, là, on nous dit qu'ils sont arrivés jusqu'à Nachal Eshkol. Donc l'endroit, c'était... Le nom de l'endroit était déjà fixe. D'accord ? On savait, il y a un endroit qui s'appelait... Depuis longtemps, il y avait un endroit qui s'appelait la vallée d'Eshkol. Alors, est-ce que ça s'appelait la vallée d'Eshkol parce que c'était un territoire qui appartenait à Eshkol ? Comme de même qu'il y avait Eloné Mamré, les chênais de Mamré... Bon, qui étaient les endroits, ça s'appelait les chênais de Mamré, là, c'est peut-être la vallée d'Eshkol, c'était un territoire qu'il avait acheté, c'est sa vallée à lui. Mais le problème, c'est pourquoi lui, il s'appelle Eshkol. Ici, parce qu'on aura besoin de ça. Mais je me demande pourquoi on a besoin de nommer cette vallée, pourquoi faut-il que cette vallée s'appelle Nachal Eshkol?
C'est parti des trois amis de
la Mila. La Mila. Oui, c'est sûr. Mais...
Alors, c'est pas dans ce mot Eshkol, c'est longtemps chez les Chazal, ils disent
possible, oui. Ah, peut-être, t'as raison.
Mais où est-ce qu'on entend parler de cette année Eshkol?
De quoi? Dans l'histoire, dans l'Ech Lecha.
Dans l'Ech Lecha, il y a
Eshkol. Eshkol, le Mamré et Anan. Bien, je ne sais pas alors vraiment. Vayelchou veyavou el Moshe vel Aaron veyisapru lo veyomru banu el haaretz etc. Efes ki azam kach darkan shel mesapri lashon hara potrin betova mashlimim bera. C'est comme ça que les gens qui disent lashon hara, ils commencent comme ça, commencent par dire du bien, puis ensuite ils terminent en disant du mal. Donc ils ont commencé par dire le pays est extraordinaire, et puis ils ont continué, ils sont arrivés à dire du lashon hara. Voilà, on va s'arrêter là.